Bien, bien, bonjour à tous et à toutes. Vous pouvez vous asseoir, ceux qui sont encore debout, et s'il reste des places, d'une part. D'autre part, on m'a chargé de vous donner une information qui, je crois, vous a déjà été donnée il y a 5 minutes, mais comme ce n'est peut-être pas les mêmes personnes qui sont là, François Bouc ne viendra pas, raison pour laquelle la table ronde qui se tient dans l'espace Hetzel a été prolongée, et raison pour laquelle notre propre table ronde qui devait avoir lieu en espèce Hetzel a lieu ici. Voilà. Surtout, ne vous levez pas tous et ne partez pas, me dit Gérard Klein, qui est un petit peu sceptique en l'occurrence ici. Bien. Alors, nous devons discuter maintenant d'un sujet dont la formulation qui en a été donnée me pose un peu problème. Vous allez voir pourquoi. Le sujet est expérience de pensée. Donc, nous allons essayer d'inventer quelque chose. Et si le futur avait commencé plus tôt, où en serions-nous aujourd'hui? Ce qui me paraît une question tout à fait pertinente. En revanche, la présentation du sujet par la délégation artistique du festival continue en disant qu'effectivement, ça nous conduit au steampunk. Alors, je ne suis pas tout à fait persuadé que l'hypothèse « si le futur avait commencé plus tôt » nous mène automatiquement et seulement au steampunk. Je crois qu'elle peut nous mener dans des tas d'autres domaines et dans des tas d'autres contrées, généralement liées à l'Uchronie d'ailleurs, mais nous verrons tout à l'heure comment nous allons en parler. Pour en parler donc, Vincent Bontemps, tout à fait à l'extrême droite pour vous, chercheur au CEA, spécialiste de Gaston Bachelard en fait, mais aussi de Charles Renouvier, qui, comme vous le savez tous, est l'inventeur du terme Uchronie, pas de la chose mais du terme en tout cas, et qui a précisément, Vincent Bontemps, écrit un article sur les expériences de pensée qui, je crois, est à paraître en 2016, je ne me trompe pas. Gérard Klein, juste à côté de moi, écrivain, mais et aussi et surtout, le surtout est peut-être de trop d'ailleurs, parce qu'écrivain aussi, éditeur, le grand éditeur de science-fiction, qui a été pendant extrêmement longtemps le directeur et l'inspirateur de la collection Ailleurs et Demain, chez Robert Laffont. Et lui, je pense, il a vu l'avenir commencer plus tôt. Stéphane Przybylski, historien, spécialiste de la guerre franco-prussienne de 1870, si je ne me trompe pas, mais également auteur du premier tome d'une tétralogie, je ne me trompe pas non plus, apparaître au Bélial, enfin le premier tome est paru, et le premier tome étant intitulé « Le château des millions d'années », où l'on voit un espion nazi mêlé à une mystérieuse histoire d'extraterrestres. Alors ça, le futur n'a pas commencé ni plus tôt ni plus tard, il a commencé à côté, plus ou moins. Enfin, Thierry Smolderen, scénariste de BD et historien du 9e art, dont par exemple l'album L'Empire de l'Atome, c'est pas d'ailleurs tout à fait ça, c'est Souvenir de l'Empire de l'Atome, tout d'un coup ça me revient, dessiné par Alexandre Cléry, se promène entre différentes époques du 20e siècle via une sorte de rétrofuturisme qui mélange joyeusement les clichés et les références de la SF. Bien, voilà, nous voilà donc devant cette question que je voudrais rapidement lancer. Qu'est-ce que peut évoquer pour vous, chers amis, cette idée du futur qui aurait commencé plus tôt? Imagine-t-on Napoléon équipé de dirigeables? Héron d'Alexandrie aurait-il perfectionné son néoleptile et éolipile, c'est ça, pour le rendre opérationnel? Le peuple de Paris instaurait une république durable en 1848. Est-ce bien là le futur commençant plus tôt? On est en train, en fait, comme je le disais tout à l'heure, de frôler l'Uchronie. D'autant qu'on peut renverser la question et se demander ce qui se passerait si le futur avait été inventé, non pas plus tôt, mais plus tard. Ce qui nous amène à nous poser la question, par exemple, des références chronologiques. Après tout, qu'est-ce que plus tôt, qu'est-ce que plus tard? Ça ne présente vraiment d'intérêt que si on met en face deux types d'événements et en les décalant dans le temps. Là, ça commence à avoir un intérêt. Parce que sinon, que l'électricité ait été industrialisée en 1880 ou en 1980 ou en 1780, ce n'est qu'un problème de date sans grand intérêt. Voilà, messieurs, je vous laisse avec ces questions. Qui veut j'ai vu déjà des micros se lever ou des yeux s'ouvrir. Qui commence? Allez. Allez.
L'historien, il est, ma foi, sur une problématique qui est un tout petit peu, je dirais, parallèle à celle que vous posez. Et là, je fais directement référence donc à l'univers que je décris dans Le Château des millions d'années, où je considère en fait que le futur, aujourd'hui, a déjà commencé. C'est la problématique de base du Château des millions d'années. Et cette problématique, c'est que simplement, ce futur qui a déjà commencé, on a négligé ou on n'a pas souhaité en avertir les populations. Cette hypothèse, qui est formulée donc dans Le Château des millions d'années, elle renvoie directement à l'univers des X-Files et à une phrase culte des X-Files en particulier, qui c'est un membre de la conspiration donc américaine qui dit à un moment donné: nous sommes le futur. Et c'est là, sur ce problème-là, que je me pose, c'est-à-dire ma réponse à moi, c'est oui, il y a des hommes influents dans nos gouvernements qui ont pu prendre en main nos destinées dans le passé, donc nécessairement, là en l'occurrence, durant la Seconde Guerre mondiale et pendant la période qui a suivi, donc la guerre froide. Ils ont pris en main nos destinées sans nous en avertir. Et en faisant tout pour que nous ne puissions jamais être conscients que le futur a déjà commencé. Alors, certains esprits caractérisent ces personnages comme des conspirateurs. Et si on parle de conspiration, ce qui est un des sujets de mon livre, quels seraient donc les buts de cette conspiration? C'est justement préparer l'avènement de ce futur. Un futur inconcevable, un futur éloigné de nos modes de vie, un futur opposé à nos usages sociaux, à nos croyances, à nos philosophies, à nos religions. Un futur dont la nature, si elle venait à être connue de tous, remettrait en cause la stabilité de nos gouvernements, mais également le fonctionnement même de notre société, de notre système, et je dirais même donc de nos usages personnels et donc de notre mode de vie. Et c'est l'univers donc que je décris, ou que je commence à décrire, donc dans Le Château des millions d'années. Et ses suites, puisque c'est une tétralogie, comme vous le disiez au début, donc avec la suite qui paraîtra le 13 novembre. Les réponses à cette question, on va peut-être les évoquer, si le futur avait commencé plus tôt, et si aussi il n'avait pas déjà commencé. Voilà, telle est la problématique et le, je dirais, l'angle de point de vue sur lequel je me pose.
Oui, simplement, je dirais, avant de passer la parole à Gérard Klein, que le futur a une caractéristique très forte, c'est qu'il commence tous les jours. Enfin, je l'ai vu commencer hier, je pense qu'il va commencer tout à l'heure, vers 17h, et demain, je ne sais pas, c'est pas encore tout à fait prévu. Gérard Klein.
Oui, ce qui me semble, dans cette problématique, c'est que il n'y a pas une histoire, enfin il y a bien entendu une histoire, celle qui étudie les historiens, mais cette histoire est décomposable entre plusieurs histoires. Il y a une histoire économique, il y a une histoire sociale, il y a une histoire des sciences, qui est une chose très importante et sur laquelle on va avoir sérieusement à revenir, il y a une histoire militaire et donc une histoire des guerres. Et ce sont les décalages entre ces différentes histoires qui font que ce que nous appelons le futur, et quand on parle futur ici, on pense implicitement à un futur davantage imprégné peut-être de progrès technologiques et scientifiques, ce sont les décalages entre ces différentes histoires qui font que ce futur technologique et scientifique advient plus ou moins tôt. Imaginons par exemple que la première guerre mondiale, qui a été la grande catastrophe qui a détruit l'Europe et certainement retardé de plusieurs décennies le développement au moins de la civilisation occidentale, n'ait pas eu lieu. Or, les causes, les origines de cette guerre sont tellement incertaines que les historiens en disputent. Enfin, on a l'impression, je me suis moi-même un peu penché sur le problème, notamment avec mon ami Jacques Le Saume, on a l'impression qu'elle aurait très bien pu ne pas advenir, qu'on aurait pu l'éviter. C'est une série d'événements sans grande importance il y a l'effet de papillon. C'est-à-dire, il y a des événements qui brusquement se mettent à devenir irréversibles qui conduisent à cette catastrophe. C'est un élément de réflexion. L'histoire des sciences et des techniques a souvent été précipitée par les guerres, mais elle a été souvent également considérablement retardée par les guerres, enfin, et les révolutions et les événements sociaux. Alors c'est à partir de là, je crois, qu'on peut essayer d'introduire une réflexion sur si le futur avait commencé plus tôt. Dans une préface, justement, à des histoires de Uchronie, du livre de poche, j'ai risqué deux Uchronies. Dans la première, elle résulte d'une vieille interrogation de ma part sur les origines de la Révolution française et de la forme qu'elle a pris. Avant la Révolution française, la France est la grande puissance européenne, à peu près toute l'Europe cultivée par le français. Elle pourrait avoir conquis toute l'Amérique du Nord sans grande difficulté. Bon, et puis, il y a la Révolution, tout ça s'arrête et la France connaît une très longue période de déclin. Pourquoi ? Je pense, sans que ce soit évidemment la seule raison, que l'origine des problèmes est à trouver dans l'éloignement du centre du pouvoir à Versailles. Or, pourquoi est-ce que Louis XIV décide de déplacer à Versailles le centre du pouvoir? Ça fait quand même une demi-journée de cheval ou de carrosse à l'époque, hein, et le RER n'existait pas tout à fait. Il le fait parce qu'enfant, il a été terrorisé par la première révolution française, extraordinairement confuse, la Fronde, exactement. Excusez-moi, je cherchais le mot. Donc, si vous voulez, pour moi, l'origine de toutes sortes de bouleversements en France est à trouver non pas tant, mais évidemment, il faut le loger là aussi, dans la Révolution française de 1789, mais dans la Fronde qui explique tout le reste. Or, culturellement et scientifiquement, il y a deux grandes puissances en Europe à l'époque, la France et la Grande-Bretagne. Imaginons que la Révolution française se soit passée et n'ait pas eu comme conséquence l'Empire, se soit passée de façon beaucoup plus calme et aboutit à une monarchie constitutionnelle, la France restait la grande puissance mondiale, admirée en particulier de nos ennemis britanniques. Alors, je ne sais pas ce que les historiens présents en pensent.
Moi, je ne suis pas historien, je suis philosophe.
Vincent Bontemps.
Alors donc, je pense comme vous que quand on formule un sujet comme ça, le futur a-t-il commencé avant, c'est facile de se prendre les pieds dans le tapis. Alors, le boulot du philosophe, c'est de faire des distinctions conceptuelles. La première qu'on peut faire, c'est il y a deux sens du mot temps et qui en fait sont deux séries différentes qui interfèrent dans la formulation. D'une part, il y a un temps chronologique, celui où on met des dates. Et là, il y a un avant et un après, mais en fait, il n'y a pas vraiment... Enfin, la distinction entre passé, présent, futur, vous voyez bien, elle dépend de l'endroit où on sépare, mais ce temps, il est homogène, il est orienté dans un sens, et voilà. Et puis, il y a un temps dans lequel nous vivons, le temps vécu, le temps, on pourrait dire, avec un gros mot philosophique, phénoménologique. Dans celui-là, oui, vous avez un passé, vous vivez au présent tout le temps, et puis, vous avez un avenir, ou un futur. Et les gens qui vivent dans notre passé ont vécu au présent, évidemment. Et ils avaient aussi des futurs, les futurs antérieurs, qui ne correspondent pas avec notre passé. Ils ne se sont pas réalisés, ils avaient des futurs. Alors la question qu'on peut poser dans la suite de ce que tu as dit, c'est est-ce qu'il y a un futur? Est-ce qu'il peut commencer avant le futur? Alors évidemment, il y a cette question du décalage. Si on veut chercher quelque chose comme un gradient vraiment sûr pour une chronologie, sur quoi on se rabat? Enfin, le gradient le plus sûr, c'est le développement technique. C'est ce qu'on fait pour depuis la paléontologie jusqu'à développer ensuite les vieilles civilisations. On regarde qu'est-ce que les gens savaient faire, parce que ça régresse rarement, autrement que par destruction de cette civilisation, et parce que c'est là où on a les traces les plus nettes. Donc l'élément objectif du écoulement du temps qu'on fait pour l'âge de fer, l'âge de bronze, vous voyez, on forme ça en fonction du développement des techniques. Alors, c'est des décalages avec les autres séries causales, et celles auxquelles on compare souvent, en fait, c'est des décalages avec une série qui serait les mœurs, l'état de vie sociopolitique des gens. Donc on essaye de penser en fait ça, c'est-à-dire, est-ce si des gens avaient eu des technologies à des stades antérieurs, qu'est-ce que ça aurait fait sur leur façon de vivre? Voilà, c'est en gros ça la question, il me semble, qu'on est en train de formuler. Mais en même temps, se pose cette question qui est, est-ce qu'il n'y a qu'un seul futur, hein? Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt des futurs qui sont présentés à chaque moment, et puis ensuite un chemin qui se fait là-dedans? Quel est le degré de résistance de ce développement? Voilà. Alors, il y a plein d'hypothèses qui sont données. Soit on peut penser que les choses sont relativement contingentes, fragiles, et que la trame du temps pouvait très très bien bifurquer. Voilà. Soit on peut penser qu'au contraire, qu'il y a des rythmes extrêmement solides, stables, que le développement technique ne pouvait pas aller plus vite qu'il est allé. Et donc on rentre dans des hypothèses qui sont, quel est le rôle, par exemple, du milieu, du filtre socioculturel par rapport au développement des inventions? Parce qu'on se dit qu'il y a eu des moments en fait antérieurs où des inventions ont lieu, puis elles n'ont pas prise. Alors qu'à un certain moment, tout d'un coup, elles arrivent à s'imposer. Et donc c'est dans cette problématique-là, avec cette idée qu'il y a peut-être différents futurs qui ne sont pas tous possibles. Chaque fois qu'on part dans un sens, c'est irréversible, des futurs sont interdits, mais à aucun moment vous n'êtes non plus dans un flux qui est orienté d'une façon totalement déterministe. Vous avez toujours d'autres choix qui se présentent à vous. Le présent possède toujours cette faculté de s'ouvrir sur des futurs. Et la deuxième chose, c'est que du coup, quand on y pense, quand on le rejette dans le passé, ça produit cette étrange nostalgie qui est que vous n'êtes pas nostalgique du passé, vous êtes nostalgique des futurs qui étaient possibles dans le passé et qui ne sont plus possibles. Ce qui est, et ça marque, bon, alors, par exemple, dans l'Uchronie, ça marque énormément cette nostalgie qui est souvent une nostalgie politique, est évidemment marquée. Tu viens d'en faire état, là, avec la Révolution française, ça aurait été tellement bien qu'on s'arrête au Directoire, par exemple, hein, et qu'on ne commence pas à envahir tous les pays d'Europe, et la France aurait été tellement bien. Mais c'est extrêmement classique. Louis Geoffroy, quand il crée la chose, et non pas le mot Uchronie, avec, c'est parce que c'est un ancien des campagnes napoléoniennes. Donc il imagine qu'est-ce que ça aurait été bien si Napoléon avait gagné la campagne de Russie.
Un bonapartiste fou.
Un bonapartiste totalement fou. Et on trouve ça très très souvent, cette vision de se dire, ah, on a la nostalgie de futurs, voilà, de futurs antérieurs qui ne se sont pas réalisés.
Le terme d'Uchronie a été imaginé par Renouvin. Renouvin est dans un contexte tout à fait différent, puisque lui imagine ce que aurait été la civilisation si le christianisme n'avait pas réussi. Alors, il y a un double jeu dans son texte, puisque son texte est écrit du point de vue d'un auteur qui vit dans un autre continuum où le christianisme a échoué, enfin, il ne s'est pas du tout développé, les romains ont pris les bonnes décisions, etc. C'est d'ailleurs, le livre Renouvin est d'ailleurs dirigé contre le christianisme, qu'il considère comme un facteur de régression. Alors, en même temps, dans la deuxième partie du livre, c'est retourné parce que cette histoire, cette uchronie est reconsidérée du point de vue de quelqu'un qui se situe à peu près dans notre histoire. Donc c'est là que... Alors je ne savais pas que Renouvin avait été un soldat de...
Non, c'est Louis Geoffroy. Louis Geoffroy écrit en 1836.
Ah oui, non, mais c'est
tout à fait autre chose. Et Renouvier vers 1850. Oui, et Renouvier crée vraiment le terme et toute la théorie qui va avec. Tu as raison.
1876. Juste un mot avant de vous passer la parole. Les deux hypothèses possibles sur le rôle que joue le présent dans le développement du futur, on pourrait imaginer ça en termes de physique, en utilisant notre bon vieux chat de Schrödinger. Soit on a un seul chat de Schrödinger, mais qui se succède à lui-même et qui à chaque fois prend une des hypothèses, prend une des voies et de nouveau recommence la chose. Soit on en a un très 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 grand nombre, et dans ce cas-là on a une histoire statistique où effectivement les choses peuvent commencer à avoir un sens, mais un sens statistique.
Peut-être pour faire un peu le lien avec le déterminisme l'histoire de la Première Guerre mondiale, dire qu'il y a un virage qui s'opère pendant le XXe siècle, c'est le développement de l'arme atomique. On a à un moment donné des savants qui, depuis des peut-être des siècles, travaillent en fait dans leur coin, inventent des choses, développent des idées, des nouvelles technologies. Et le milieu industriel ou embryonnaire au 19e, ou même encore avant, il s'approprie par moments ces découvertes et il commence à développer quelque chose, je dirais, un peu de façon artisanale, de manière un peu souvent fortuite. Ah ben tiens, on a inventé une machine à vapeur, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Au 20e, on a quand même un virage, c'est l'arme atomique, où là, on a les États-Unis d'Amérique qui mettent aux commandes, et sans doute pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ils mettent aux commandes d'un projet, donc avec des applications militaires pratiques, pour faire une bombe atomique, on va mettre aux commandes de ce projet des scientifiques, et non plus des industriels. Et ça, c'est sans doute propre aux États-Unis. On parlait tout à l'heure de la Première Guerre mondiale. S'il y a un événement majeur qui se révèle au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, c'est bien le rôle central que vont occuper et occupent toujours les États-Unis dans notre monde. On a un certain nombre de pays européens qui, depuis des siècles, mettent en place, je dirais, appliquent la théorie de Clausewitz. La guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens. Voilà comment on fait de la politique en Europe depuis des siècles. Je dirais, pour moi, conséquence logique de la théorie clausewitzienne, c'est qu'en 1914, on se fait la guerre parce que tout bêtement, on en a l'usage depuis au moins la fin du Moyen-Âge. Donc, entre grands royaumes et grandes entités européennes. Les Américains, ils reprennent un peu ce flambeau, mais à leur manière. Et justement, eux, leur puissance économique, leur puissance industrielle, elle va leur permettre peut-être de changer, de provoquer le futur. Justement, le futur dont je parlais au tout début, c'est-à-dire de provoquer un futur qui commence dès 1939, un futur où on se dit, pour inventer le futur, on va plus uniquement utiliser les ressources d'abord des politiques, ensuite des industriels, mais on va peut-être demander aux savants qui sont juste en train de faire des équations mathématiques, on va leur dire, tiens ton équation là, tu m'expliques qu'elle pourrait faire une bombe qui pourrait me provoquer quasiment le jugement dernier. Est-ce que tu pourrais pas m'inventer toute l'industrie qui tournerait autour, qui me permettrait de développer très vite cette arme pour pouvoir m'en servir contre Adolf Hitler. Et c'est ce qui va se passer. Et on va se retrouver avec un projet Manhattan qui, sans doute, dans l'histoire de l'humanité, n'a aucune comparaison.
Est-ce qu'il n'y aurait pas, alors dans ce cas-là, avant de passer juste la parole à Gérard Klein, ou à Thierry Sundéren, s'il la veut, une coïncidence étrange entre ce phénomène-là qui se produit à la fin des années 30 et un autre phénomène que nous connaissons bien ici, qui se produit au début des années 30, c'est la naissance de la science-fiction américaine classique. C'est à 10 ans près. Hein.
Sans doute. Enfin, ouais. Forcément, à un moment donné, l'imaginaire va rejoindre la réalité à ce niveau-là. Et puis, c'est sans doute aux États-Unis que c'est le seul endroit, hein, comme je disais, qui peut le faire. Ouais. Tout simplement parce que ce sont les États-Unis qui ont tiré les marrons du feu de la Première Guerre mondiale. Ouais. Donc, c'est eux qui ont l'argent. Donc, forcément, pour faire tout ça,
voilà une idée intéressante à développer. Gérard Klein.
Oui, ce sont deux questions très différentes. En ce qui concerne la naissance de la science-fiction en 1930, enfin en 1926 par exemple aux États-Unis, je m'inscris radicalement faux. Mais alors Gansbach introduit un nouveau système, c'est-à-dire le Pulp Magazine, dans une histoire littéraire de la science-fiction qui est déjà très très bien installée. Et il suffit de dire donc là-dessus je m'inscris en faux. Alors, en ce qui concerne l'autre problème, c'est beaucoup plus complexe, mais il ne faut pas oublier que la Première Guerre mondiale a été la première véritable guerre industrielle. Et c'est une guerre industrielle qui a mis une grande partie au service des armées une recherche scientifique déjà très développée. Pas oublier que les Allemands, par exemple, qui étaient particulièrement bons dans le domaine de l'industrie chimique, ont développé les premiers, en étant immédiatement suivis d'ailleurs par leurs collègues d'en face, les gaz asphyxiants. Enfin, de la même manière, les chars d'assaut et l'aviation ont connu une évolution foudroyante pendant la Première Guerre mondiale, qui a été liée à des travaux scientifiques et techniques très poussés. D'ailleurs, un des premiers à avoir eu l'idée des chars d'assaut, ça a été H.G. Wells, qui s'en est abondamment et parfois exagérément vanté par la suite. Il a compris également, d'ailleurs, l'intérêt de l'aviation dans une guerre. Donc, la Seconde Guerre mondiale, avec l'entrée massive, en effet, d'un projet industriel qui est à la base un projet scientifique, n'est pas la première rupture dans ce domaine. D'autre part, en ce qui concerne l'arme nucléaire, si en effet c'est le projet Manhattan qui permet de la fabriquer concrètement, elle est dans les dossiers des scientifiques à peu près depuis les années 20 avec la physique quantique, hein, sans que le chat de Schrödinger, le malheureux, ait rien eu à voir là-dedans. C'est la physique quantique qui pose la possibilité d'une telle arme qui aurait certainement été développée à un moment ou à un autre et qui aurait même pu être développée beaucoup plus tôt si la physique quantique était elle-même apparue plus tôt. On voit bien qu'à la fin du 19e siècle, la physique est dans une grande crise. Henri Poincaré écrit très bien ça dans un de ses livres. Et c'est la physique quantique qui va permettre, enfin avec la relativité d'Einstein, de débloquer cette crise. Mais toutes ces réflexions et ces découvertes auraient pu être faites en 1820. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'arme nucléaire en tant que possibilité, peut-être en tant qu'actualité, serait intervenue dès la fin du 19e siècle. Alors, je voudrais aussi dire, pour ne pas monopoliser la parole, que le problème de la pluralité des avenirs, c'est exactement celui qui se pose aux prospectivistes que je suis, que j'ai été aussi, où nous avons, en somme, deux grands aspects. Nous avons ce que nous appelons les tendances lourdes, qui sont relativement prévisibles. Si vous voulez, la démographie, par exemple, représente une tendance lourde. Il y en a bien d'autres. Et les ruptures. Et le problème des ruptures, c'est que même si on arrive, d'abord, sur la plupart du temps, on n'arrive pas vraiment à les prévoir, mais c'est que surtout, on ne sait pas les situer dans le temps. On peut établir des courbes concernant les tendances lourdes, mais en ce qui concerne les ruptures, ça, on ne sait pas faire. Une crise peut se produire demain, ou dans 6 mois, ou dans 10 ans, par exemple, on ne sait pas. Donc, pour tous les prospectivistes que je connais, l'histoire est fondamentalement, on peut la définir comme les 1000 sentiers de l'avenir, ce qui est le titre d'un livre de mon ami Jacques Le Saul.
Oui. Thierry Sommel-Dérenne.
Oui, alors moi je reviendrai à la notion d'expérience de pensée, parce que je trouve que cette expérience de pensée-là, qui consiste à imaginer des bifurcations alternatives au chemin orthodoxe du temps tel qu'on l'a vécu, cette expérience de pensée, elle introduit une asymétrie assez, une coupure assez intéressante, je trouve, entre la dimension collective, ce qu'on pourrait appeler les tendances lourdes, l'inertie des sociétés dans leur ensemble, les régularités du monde, ce qui intéresse beaucoup les historiens qui se sont depuis quelques dizaines d'années ou plus d'ailleurs inscrit en faux contre une version héroïque de l'histoire dans laquelle des grands hommes, les génies ont défini le chemin narratif qu'on attribue à notre passé. Et je trouve que cette expérience de pensée met vraiment bien en relief cette aporie, parce que quelque part, elle est très très difficile à résoudre entre l'influence de l'individu et des individus exceptionnels que sont Einstein, Maxwell et autres scientifiques qui ont vraiment changé le cours de la science, et puis c'est cette dimension collective, ces paradigmes qui sont beaucoup plus larges que l'échelle humaine, hein, dans lequel on travaille. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui va crever la bulle d'un paradigme pour en générer un autre? Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une rupture en science. Tous ces éléments-là sont... Se différencie à travers ce prisme qui est celui de l'Uchronie. Et ce que je remarque, c'est que dans notre vie de tous les jours, on vit ça, en fait. L'autre jour, je me surprenais en arrivant en retard en rendez-vous, en train de râler ma voiture parce que j'avais un camion devant moi, etc. Et je me surprenais à me rassurer moi-même en me disant peut-être que si j'étais arrivé deux minutes plus tôt à ce carrefour, j'aurais eu un accident mortel et je serais mort. Donc je me suis rassuré de cette manière-là. Et si on étend ça à une généralité très très large, on peut se dire, mais attendez, il y a Mozart, il y a Einstein, tous ces grands hommes, mais aujourd'hui, il y a combien d'êtres humains qui meurent dans des circonstances terribles, en Syrie, un peu partout, et dans lequel il y avait peut-être parmi eux le Mozart, tout le monde a pensé ça, je pense, le Einstein du futur, etc.
Le nombre de grands hommes qui sont morts enfants.
Pardon ?
Le nombre de grands hommes qui sont
qui
morts
sont morts
enfants,
ou qui sont pas nés et qui auraient pu naître. Donc il y a toutes ces bifurcations-là qui effectivement donnent le vertige, parce que effectivement l'histoire basée sur l'héroïsme et sur la grandeur des hommes change totalement de cours si on fait ça. Et là il y a un mystère, quelque chose d'insaisissable. Si en plus on réintroduit dans ce domaine-là un autre aspect qui est l'aspect que l'épistémologie en histoire des sciences a introduit récemment, qui est je parle de la tour, qui consiste à poser la question de la symétrie de l'histoire des sciences par rapport que l'histoire des sciences anciennes introduisait par rapport aux solutions qui avaient gagné contre celles qui n'avaient jamais été reprises, hein, c'est-à-dire toutes les théories qui ont foiré dans l'histoire des sciences sont considérées comme mauvaises, et toutes celles qui ont réussi dessinent le tracé de la voie royale du progrès. Mais si on remet en question cette affaire-là aussi, c'est peut-être aussi une des questions que l'Uchronie. Et je pense que dans la fantasy, on aborde à peu près cet angle-là, c'est-à-dire de dire, mais peut-être que la phlogistique avait raison.
Non, non, non.
Sur les choix que les hommes ont pu faire et qui ont influencé le futur, moi j'ai toujours un exemple que je cite, c'est le cas du Parthénon à Athènes, où on est tous d'accord pour dire que ça a profondément influencé notre civilisation et ça l'influence sans doute toujours. Ce Parthénon, il a coûté à la cité d'Athènes à l'époque le budget de sa flotte de guerre pendant un an. C'est-à-dire que, en fait, par rapport à l'économie athénienne, le Parthénon, c'est peanuts, c'est rien du tout. Et par contre, leur flotte de guerre, ils l'ont soutenue comme ça pendant des décennies, même tout au long d'un siècle, en fait, pour s'assurer une suprématie sur la Méditerranée. C'était ça, leur cœur de métier, entre guillemets. C'était pas faire des choses jolies et développer une philosophie qui allait continuer à nous influencer jusqu'à aujourd'hui, qui allait donc influencer tous nos modes de pensée. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est avoir la meilleure armée du monde pour pouvoir conquérir le monde, enfin, en tout cas, ce qu'ils en connaissaient à l'époque. Voilà, donc, si ça s'était inversé, si on avait dit... on va arrêter de faire des navires de guerre et on va plutôt essayer d'essaimer des Parthénons un peu partout. Bon, ils l'ont fait un petit peu.
Il y en a eu quelques-uns d'ailleurs.
Ouais, voilà, en Sicile et en Italie, Paestum notamment. Mais ils en ont fait quelques-uns. Mais par rapport, encore une fois, à leur budget de guerre, c'était rien du tout. On peut aujourd'hui s'interroger de même sur les grands choix, donc ceux que je disais tout à l'heure, le développement du nucléaire, notamment, qui a démarré donc aux États-Unis. J'entendais récemment que le président d'EDF définissait le développement de 40 à 50 centrales nucléaires pour les 100 prochaines années en France, parce que donc on est censé définir les politiques énergétiques de nos pays sur de très longues périodes. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Il faut savoir que c'est simplement, le prolongement d'une politique qui a été mise en place par De Gaulle il y a de ça maintenant presque un peu plus de 50 ans, et politique qui était elle-même influencée par le projet Manhattan, une espèce de théorie de domino, comme ça, une espèce d'enchaînement, une espèce de réaction en chaîne, finalement, qui se produit depuis, où on a fait un choix, et en fait, pour continuer le développement, on se retrouve quelque part un peu obligé. C'était, je crois, un peu la teneur des propos du président d'EDF. On était obligé de dire, on n'a pas d'autre solution que de définir le modèle suivant, le futur, selon le modèle existant actuellement.
Je crois avoir compris que Gérard Klein n'est pas tout à fait d'accord.
Non, je ne suis pas d'accord sur plusieurs points. D'abord, en ce qui concerne les travaux très remarquables de Bruno Latour, Bruno Latour ne fait pas le choix entre des évolutions scientifiques possibles mais entre des évolutions techniques possibles, ce qui est extrêmement différent. Bon, d'autre part, en ce qui concerne le nucléaire militaire d'une part et le nucléaire civil d'autre part, ils sont quand même singulièrement déphasés. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à partir dans les années 20 et dans les années 30, les scientifiques les mieux au courant savent que l'arme nucléaire sera faisable. Et ils y pensent d'ailleurs plutôt qu'à l'exploitation civile du nucléaire. Si bien qu'il y a trois pays, disons à partir des années 30, qui sont susceptibles de développer l'arme nucléaire. Les États-Unis, qui sont les moins engagés. L'Allemagne, qui a produit à peu près tous les savants qui ont créé la physique quantique et cette physique, et la Russie soviétique. Donc quand la décision est prise par le président Roosevelt de lancer le projet Manhattan, c'est sous la pression de savants, et beaucoup de savants d'origine européenne, juifs, qui leur disent « attention, les Allemands risquent de l'avoir, et s'ils l'ont, ça va être la catastrophe ». Il y a également l'arrière-pensée que les Russes pourraient bien l'avoir. Donc on est en présence, dans ce cas précis, si Roosevelt n'avait pas lancé le projet Manhattan, les Allemands, à un moment ou un autre, auraient certainement eu la bombe nucléaire, et les Russes, très rapidement, l'auraient eu également. Et ils l'auraient même eu beaucoup plus tôt s'ils n'avaient pas été saignés à blanc par la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut voir que c'est un choix de décision complexe. Donc on n'a pas seulement un beau jour quelqu'un qui se dit on va avoir une arme terrible, il y en a quelqu'un, les gens qui savent ce qui se passe savent qu'il y a trois pays au monde, au moins les Français auraient théoriquement pu, mais ils étaient déjà bien trop arriérés. C'est Joliot-Curie a joué un rôle considérable dans ce domaine en France. Donc il y a donc dès les années 30, il y a un choix à faire en fonction de trois puissances qui sont susceptibles de développer une telle arme. Alors, en ce qui concerne le nucléaire civil, il se trouve que j'ai travaillé en 1973-1974 pour EDF sur le grand programme nucléaire. Ça représente aujourd'hui indéniablement des choix, mais ils n'ont pas le caractère de fatalité que vous décrivez. C'est un problème complexe, écologique, économique. Après tout, c'est quand même le moyen de produire de la chaleur, puisque c'est essentiellement de la chaleur avec moins de CO2 qu'avec du charbon, etc. Bon, donc c'est pas un truc qu'on peut balayer sous la carpette en disant le nucléaire c'est dangereux. Le nucléaire a tué des milliers, des centaines de milliers de gens de moins que le charbon et le pétrole réunis. Il ne faut quand même pas oublier la mortalité insensée liée au charbon et au pétrole. Nucléaire, c'est peanuts.
Je suis capable de prévoir l'avenir et en particulier de savoir que c'est Vincent Montand qui va nous parler maintenant.
Je vais revenir sur la question de départ. Si on veut que le futur commence plus tôt, qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce qu'on est obligé de transformer dans l'histoire pour obtenir une bifurcation ? Alors, la chose la moins coûteuse, c'est celle que choisit Renouvier quand il fait l'Uchronie, ou celle qu'on suppose quand Babbage obtient finalement les fonds pour construire son ordinateur, donc sa machine. C'est finalement de changer juste la volonté des gens sur le moment. Mais on dit qu'on garde l'univers pareil, et on dit juste que les gens ont pris des décisions différentes. Donc, ce serait ce qu'on peut dire une contrefactualité contingente. Ça aurait pu se passer autrement si les gens avaient décidé de le faire autrement. Donc ça, c'est un premier choix. C'est pas coûteux. Et on peut déjà beaucoup s'amuser avec ça et étudier, justement, se demander à quel point ça aurait pu faire diverger le monde. La deuxième chose, donc on peut aussi mettre des idées dans la tête des gens, qu'ils aient eu des idées avant que ces idées soient apparues officiellement. La deuxième chose, c'est qu'on peut commencer à tripoter un peu les conditions initiales, c'est-à-dire ceux dont ils disposent, ou alors jouer avec le hasard, c'est-à-dire faire tomber une comète sur la Grande-Bretagne à un moment donné et supprimer cet acteur du jeu. Voilà. Donc si on joue avec ça, on change. Ça coûte pas encore grand-chose non plus. On change donc des séries causales qui sont indépendantes, où on, à la limite, on modifie un peu. Voilà, on a découvert plutôt un certain nombre de choses, je veux dire, en termes de ressources naturelles. Bon, voilà. Et donc là, on obtient encore toute une branche. Évidemment, on pourrait encore trouver des exemples dans le steampunk qui partent là-dessus, qui partent sur l'idée que la Grande-Bretagne avait accès à une réserve illimitée, finalement, de charbon et d'acier et tout ça. Donc, construit des machines délirantes à base de vapeur qui font la même chose. Et on part dans une autre civilisation qui anticipe certains fonctionnements. Après, on commence à jouer un peu plus. On commence dans un univers, effectivement, où on glisse. Parce que moi, la tour, des fois, je le trouve un peu équivoque. Des fois, on a l'impression qu'il dit un peu ce que tu disais, Thierry. Des moments, on a l'impression qu'il est rationaliste, comme ce que tu disais. Entre les deux, c'est équivoque. Non, il n'est pas très sérieux. Il aime bien jouer, il aime bien être provocateur, il aime jouer. Donc, si on commence à changer les lois de la physique, alors, évidemment, on peut s'amuser beaucoup plus. On peut imaginer, par exemple, il y avait un jeu de rôle qui s'appelait comme ça, Mars 1889, qui était steampunk, et dans lequel l'éther existe, en fait. Donc la phlogistique est vraie, l'éther existe, Edison, il y avait un roman qui racontait ça d'ailleurs, Edison invente une machine qui est un hétéropropulseur, et c'est toujours, cette fois-ci c'est la nostalgie des anglo-saxons, donc c'est Victoria, hein, l'Angleterre victorienne se propulse sur Mars. Mars ressemble à ce qu'on imagine à l'époque, donc il y a des canaux, il y a des martiens, il y a des choses comme ça. Vénus ressemble à ce qu'on rêvait aussi, ou ce que Flammarion délirait de l'époque, donc sur, il y a des océans, il y a des dinosaures dessus, voilà. Donc, et on commence à pouvoir changer les choses assez sérieusement. Bon. Et puis après, on peut, et ça coûte encore plus cher, bon, on peut raconter des choses illogiques. On peut faire que le monde de Lewis Carroll envahisse la Terre, qu'une forme de 2 plus 2 égale 5 intervienne. On peut commencer à changer vraiment des règles. Et donc le récit, là, bon, ben, on peut tout se permettre. Et donc il est intéressant de voir, justement, quand on veut que le futur intervienne, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce qu'on est en train de supposer? Est-ce qu'on est juste dans le jeu des volontés? Est-ce qu'on est dans quelque chose, voilà, vous voyez, qui reste potentiel, avec on a joué avec le hasard ou avec les conditions initiales, ou est-ce qu'on commence à modifier les règles physiques, modifier les mathématiques? Parce que quand on commence à modifier les mathématiques, en gros, ça ne va plus nous apprendre grand-chose.
Oui, je passe la parole une dernière fois à Gérard Quint, parce que nous allons ensuite la passer au public.
Oui, non, mais les règles physiques, on ne peut pas les changer. Quand on a une théorie bizarre, elle résiste à une réfutation ou elle ne résiste pas. Le réel auquel on affronte cette théorie, le réel, il dit non. Le réel ne dit jamais ce qu'il est, mais il dit non. En ce qui concerne le phlogistique et toutes sortes d'autres fantaisies, l'éther par exemple, le réel a dit non de façon définitive. Alors, je voudrais prendre un exemple aussi brièvement que possible qui est très intéressant par rapport à cette problématique. Dans les années, enfin l'historien, si je me trompe, précisera les choses, quoi, 1860-1880, Pasteur introduit, c'est à peu près ça, oui. Bon, enfin, Pasteur introduit l'idée de la vaccination et surtout ce thème extraordinairement important pour le développement de la science biologique, il refuse la génération spontanée. Or, la génération spontanée était acceptée par les biologistes, par la plupart des biologistes, je crois bien par tous les biologistes de l'époque, et en tout cas par tous les médecins. Hein. Bon. Or, là, il se trouve, et pendant 20 ans, Pasteur va se battre comme un fou pour faire admettre qu'il n'y a pas de génération spontanée, mais qu'il y a toujours eu des germes alors qu'on connaît, quand on peut les voir au microscope, enfin, on connaît vraiment très 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 mal le fond du problème, en tout cas pas comme aujourd'hui. Donc il se bat pendant 20 années pour faire advenir cette idée qu'il y a toujours des germes. Et vous savez quel est son principal adversaire à ce moment-là ? C'est Georges Clemenceau. Georges Clemenceau est un jeune médecin. Il fait sa thèse de médecine sur l'idée qu'il n'y a pas de, qu'il y a une génération spontanée et qu'il est absolument scandaleux philosophiquement de développer l'idée des germes. Pourquoi ? Parce que Clemenceau est un radical, c'est un sceptique, enfin c'est un, surtout un esprit anti-religieux. Pasteur est catholique. Et la génération spontanée permettait de faire l'économie d'une création très ancienne et d'une dont il soutenait que Pasteur était le défenseur et qui, après cette création, la vie s'était transmise au travers des siècles, éventuellement en évoluant. Enfin, on est aussi à l'époque de Darwin, etc. C'est une opposition fondamentale. Bien plus tard, Clemenceau a fini par reconnaître son erreur et Pasteur l'a emporté. Mais si Pasteur avait été, qui était catholique, qui défendait pas du tout l'idée des germes pour des raisons idéologiques religieuses, si Pasteur avait été beaucoup moins combatif, et Dieu sait s'il était combatif, et pas toujours d'ailleurs pour les meilleures causes, mais s'il avait été beaucoup moins combatif, on peut imaginer qu'en France au moins, on aurait commencé à abandonner le dogme de la génération spontanée vers 1930-1940. Dans d'autres disciplines, la relativité a été enseignée très tard, le darwinisme, la théorie de l'évolution a été enseignée très tard, et la théorie quantique, n'en parlons pas, elle n'est intervenue réellement dans l'enseignement supérieur français qu'après la Seconde Guerre mondiale.
Merci. Y a-t-il dans la salle des questions, des remarques, des contestations, des critiques ? Eh bien, tout de suite ici au premier rang.
Bonjour, je tiens d'abord à rendre hommage à Gérard Klein pour son excellente collection, à la belle, aussi belle couverture, doré ou argenté, puis aussi à ses ouvrages. Alors là, nous parlons du chrony, de rétrofutur et autres. Alors, est-ce que l'État islamique, finalement, Daesh, l'État islamique, est-ce que c'est pas un rétrofutur, une uchronie qui veut nous ramener, nous faire passer du 21e siècle au 7e siècle ? Donc un signe noir qui arrive, qui n'était pas prévu, parce qu'on ne s'attendait pas à ça il y a encore peu de temps. Et maintenant, on commence à voir ce signe noir. Donc Daesh est-il une uchronie mortifère qui va nous détruire ?
Messieurs.
D'abord, ça serait une dyschronie. Hein. U, ça veut dire bon, hein, a priori. Hein. Ensuite, je crois pas. Je crois que si toutes les choses paraissent comme ça contingentes et insoupçonnées, si on commence à creuser et si on demande à un historien du monde arabe qui a bien suivi les choses depuis 20-25 ans, il arrivera à nous expliquer que c'est un phénomène extrêmement moderne, que ça a un rapport avec les modes de communication sur Internet, un certain nombre de choses comme ça, que c'est évidemment très construit, qu'il a fallu aller détruire beaucoup, beaucoup de pays pour donner l'espace libre à cette idéologie, et puis que ça remonte à une tradition qui aurait une lignée qu'on pourrait relever avec cet auteur algérien qui a écrit La Voix du musulman et qui est allé la publier en Arabie Saoudite et qui ensuite est devenu le best-seller du salafisme et des choses comme ça, et qui a eu suffisamment de mutations pour arriver à cette idéologie et que ça a été très construit. Donc en premier rapport, ça ressemble à ça, et à mon avis, quand on creuse, on arrive sur des nœuds déterministes, mais probabilistes plutôt, voilà, beaucoup plus denses, qui nous expliquent que en fait, ces gens sont de notre temps. C'est vrai que ça nous paraît barbare, c'est vrai que ça nous paraît je veux dire archaïque, mais en réalité, c'est vraiment de notre temps.
Une guerre de l'image plus, comment dire, plus efficace que celle menée par les Occidentaux actuellement, qui poussent notamment les Français à faire des spots de publicité pour essayer de contrer justement la communication de Daesh, qui est effectivement moderne.
Je crois qu'il faut envisager des causes plus profondes sur lesquelles malheureusement qui sont énoncées, mais même sur lesquelles malheureusement peu de gens s'attardent. À la base de Daesh, il y a l'enseignement du wahhabisme, et du financé par l'Arabie Saoudite depuis plus de 50 ans. il y a une espèce, il y a une entreprise d'islamisation, non seulement du monde arabe, enfin l'islamisation est de retour en arrière, du monde arabe qui n'est pas du tout récente. Alors que dans un contexte particulièrement explosif, ça prenne cette forme littéralement diabolique, ça se comprend, mais ce n'est pas quelque chose qui est sorti comme ça, brusquement, comme un diable de sa boîte. C'est quelque chose dont on peut faire remonter l'origine à cette politique délibérée de l'Arabie Saoudite, qui d'une certaine manière, quand on regarde notre grand allié, puisqu'il nous livre du pétrole, quand on regarde ses institutions et son fonctionnement, demandez aux femmes saoudiennes, il fonctionne exactement comme Daesh. Simplement, c'est un peu moins visible.
Autre question, autre remarque, autre interrogation? Oui, là, au troisième rang.
Bonjour. Alors moi, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit concernant l'élément le moins coûteux pour faire une uchronie, qui était de changer les idées des gens. Et justement, en fait, je voulais revenir là-dessus parce que dans l'histoire des sciences, on voit à plusieurs occurrences de moments où des gens différents, des scientifiques différents, à des endroits différents, arrivent aux mêmes conclusions. Et donc, du coup, est-ce qu'il ne faut pas laisser du temps? Y a-t-il pas une incompressibilité finalement au progrès scientifique? Et du coup, est-ce qu'il n'est pas impossible de dire telle personne aurait eu telle idée un siècle avant? Parce qu'il faut laisser la progression scientifique arriver progressivement.
Eh bien, il y a un argument pour, il y a un argument contre. L'observation vous donne raison. L'observation vous donne raison dans le sens où on voit des lignées techniques et des lignées théoriques qui se développent pas n'importe comment au niveau du rythme. On a l'impression d'un rythme de relaxation, on n'a pas l'impression que toutes les découvertes dans une lignée arrivent au même moment, puis ensuite il se passe rien. On a l'impression qu'il y a une découverte, on finit d'épuiser ce qu'on pouvait faire avec. À ce moment-là, on tombe sur des problèmes, paf, on est obligé de faire un saut conceptuel et ainsi de suite. La même chose dans les objets techniques. Donc cette résistance, ce rythme, c'est un argument qui va dans votre sens avec ce que vous avez cité aussi, les découvertes simultanées. Il y a un moment donné où c'était mûr, plein de cerveaux s'allument en même temps, ils arrivent à faire réseau, et c'est ça qui permet le décollage, alors que peut-être, simplement avant, il y a eu un cerveau qui s'est allumé, mais il n'a pas pu... voilà. Bon, il y a un argument contre, c'est qu'on ne peut pas interdire non plus de devenir plus efficace en termes d'inventivité. Il y a des penseurs de l'inventivité qui font remarquer que c'est peut-être justement le fruit d'une certaine organisation sociale, une certaine forme d'éducation résoudre les problèmes avec ce qu'on sait déjà, alors que peut-être il y a une formation de l'intelligence à savoir affronter quand on ne sait plus, et à ce moment-là, à savoir inventer. Donc il y avait des gens, il y a quelqu'un en Union soviétique qui s'appelait Genrich Altschuler, qui disait comme ça, il avait fait une jolie matrice avec des principes de solutions, et quand on tombait sur un problème, on avait plusieurs pistes pour essayer de résoudre, et il arrivait à faire résoudre aux gens des problèmes qui avaient pris des années pour une personne, puis ensuite il disait utiliser la matrice, les gens en moins de 5 minutes tombaient sur une deuxième idée, et alors, tout de suite il leur montrait qu'il y avait eu un premier brevet, un deuxième brevet, il leur disait combien de temps à votre avis entre ces deux brevets, et il disait oh pas plus d'un an, il fait non, il s'est écoulé 17 ans, et donc il y a ça, il y a cette deuxième idée qui est qu'il n'est pas exclu non plus que avec une autre organisation sociale plus perméable et avec des méthodes intellectuelles, on ne puisse pas accélérer. Ce n'est pas exclu. Sinon, l'argument est en votre faveur de l'incompressibilité, plutôt, l'argument historique.
Hélas, je vais être obligé de vous décider de me plier aux horaires des Utopiales et de vous annoncer que cette table ronde est terminée. Merci de votre attention et à une autre.